With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
2,21 chicorois! Mon Dieu!
Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
On va jouer carte sur table, cette intro est écrite au dernier moment. Entre la série du moment à binger, mon fil Twitter où il se passe quand même pas mal de trucs, la super BD que j'avais entamée, sans oublier les invitations à bord des copains, toutes ces distractions ont fait tomber les murailles de ma motivation et ça fait que vous vous retrouvez avec une improvisation de dernière minute tapée sur un coin de table. C'est comme ça, je procrastine et je finis par paniquer avant le début de l'enregistrement. Elena Sender de Science et Avenir dirait que je manque de contrôle. Cela ne vous aura pas échappé, nous allons parler de tentation, d'émotion et de maîtrise de soi. Vous êtes dans 6ème Science, je suis Romain Gouloumès, votre hôte pour les 20 prochaines minutes, et toutes nos émotions sont sous contrôle, n'est-ce pas Elena?
Absolument, et la question se pose, surtout dans ces périodes de fêtes qui commencent avec toutes ces tentations. Comment on va faire pour résister au chocolat, à tout ce qui va nous passer
Champagne.
Sous le nez? Il va falloir faire preuve d'une grande maîtrise de soi.
C'est parfait. Alors Elena, je me permets de te représenter à nos auditeurs. Tu es donc la spécialiste en neurosciences au sein du magazine Science et Avenir. Et tu viens justement de boucler un dossier sur la maîtrise de soi et notre réaction aux émotions. J'ai juste.
Absolument.
Super. Bon, ça veut dire que je commence plutôt bien l'émotion. L'émission et non pas l'émotion. En parlant justement d'émotion, j'ai la joie d'accueillir à nouveau au micro de 6ème Science, Oyana Gabriel, une de nos expertes santé. Bonjour Oyana.
Bonjour à tous.
Ça va? T'es pas trop stressée?
Très stressée toujours.
Bon, on va parler d'angoisse, on va parler de tristesse et peut-être un peu de colère même. En gros, nous allons passer au crible les différents états émotionnels que l'on est tous amenés à connaître au quotidien. Et ce que ces états émotionnels disent de nous, donc gardez le sourire, ne vous laissez pas distraire, tout va bien se passer.
Oh là 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 là, hop, on se calme.
Elena, je commence par toi, je t'avoue, je suis un peu en stress en ce moment, il y a le Black Friday, le Cyber Monday. J'ai bien envie de m'acheter 2-3 trucs, mais en fait, faut plutôt que j'économise pour mon prochain voyage. Et bref, effectivement, il y a cette question de la tentation, la gratification directe, et aujourd'hui, le fait que je devrais plutôt économiser, ne rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire de nous, cette incapacité à soutenir, on va dire, les tentations?
La maîtrise de soi, c'est quoi? C'est différer une récompense immédiate pour atteindre un objectif à long terme. Et c'est quelque chose qui est très, très développé chez l'humain, ce qui nous permet de faire des stratégies pour l'avenir et puis d'avoir vraiment un but en tête et de tout faire pour l'atteindre. Seulement, aujourd'hui, on est tellement assailli par les tentations que cette maîtrise de soi est vraiment terriblement difficile à mettre en place. Moi, d'ailleurs, pour le Black Friday, j'ai craqué.
C'est bien de l'avouer, effectivement. Et donc, quand on parle de contrôle sur soi, on ne parle pas effectivement de mettre son cerveau au placard. Hein. On parle juste, entre guillemets, de ne pas céder aux tentations.
Exactement. Et alors, pourquoi c'est un sujet scientifiquement intéressant? C'est que des études ont montré que la capacité à contrôler, à résister à la tentation, a des impacts sur la vie en général. Et des corrélations ont été faites entre une faible maîtrise de soi et une augmentation du surpoids, du surendettement, des tendances à l'addiction, ce qui peut aisément se comprendre.
Mmh. Oui, effectivement, ça peut être lié au fait justement de ne pas craquer devant le frigo ou justement de continuer à aller au sport en hiver alors qu'il fait froid et qu'on préférait se poser devant le canapé.
Et ce qui nécessite justement une maîtrise de soi extrêmement puissante justement, encore une fois, étant donné les multiples tentations que notre vie moderne nous met sous le nez.
Alors justement, j'ai le choix entre mater la dernière série Netflix et aller courir, parce que je me suis promis que je devais aller courir peut-être deux fois par semaine. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau au moment où je vais peser un petit peu ces deux options, la gratification directe et le côté je vais me poser tranquillou à la maison, et le fait de me dire si je vais courir, je vais prendre soin de mon corps et dans six mois, ce sera bien sur les plages du sud de la France.
Mais là, dans ton cerveau, il y a deux systèmes. Ce que Walter Mischel, qui est un des pères de cette théorie, a appelé le système froid et le système chaud.
Du calme, Félix ! Du calme ! Allons, du calme, hein ?
Nous n'en sortirons pas, Astérix.
Alors, je vais prendre l'exemple, un exemple visuel. Donc, les périodes de Noël, j'ai le petit creux de 11 heures. Et devant moi, j'ai un chocolat qu'un collègue m'a gentiment proposé, ou ma pomme. Ah, qu'est-ce que je fais ? En admettant que j'ai envie de rentrer dans ma petite tenue du 31 au soir, hein, n'est-ce pas ? Bon, parce qu'il faut un objectif à long terme. Et alors, quand je vois le chocolat, que se passe-t-il ? Il y a mon cortex visuel, il a reconnu la friandise, donc il va envoyer de la dopamine dans mon cerveau, dans ce qu'on appelle le système chaud, qui réagit extrêmement immédiatement et qui dit « fonce ». Fonce parce que quoi ? Parce que dans ma mémoire a été engrammé le plaisir que je sais que je vais ressentir en mangeant le chocolat. Et mon système de récompense va être activé et va me mettre déjà dans la sensation de plaisir. Bon, alors soit je prends le chocolat, je le mange tout de suite et on n'en parle plus. Ou soit j'attends un petit peu et dans ces cas-là, il y a mon système froid qui va venir, disons, éteindre le système chaud, enfin... s'il y arrive. Et le système froid, c'est mon cortex préfrontal qui va venir sous-peser les options et dire, bon, d'accord, tu vas te faire plaisir tout de suite, mais attention, souviens-toi, ton objectif à long terme, etc., etc. Et si mon système froid est assez fort, je vais prendre la pomme.
Et donc, ouais, justement, donc ça veut dire qu'on n'est pas tous à peu près égaux. C'est-à-dire que moi, j'ai peut-être un système chaud qui est très puissant et moi, un système froid un peu faible, alors que toi, tu vas justement peut-être résister à des tentations qui sont quand même assez puissantes.
Je sens beaucoup de peur en toi.
Alors, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux parce qu'on n'a pas tous le même cerveau. On est bien d'accord. Et il y a même une étude de l'ICM, donc l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui a montré que devant un choix alimentaire, lorsqu'on est placé dans une IRM, ceux qui vont résister à la tentation sont ceux qui ont le cortex préfrontal le plus riche en matière grise. Donc, on n'est pas câblé de la même façon. Pour autant, même si nos cerveaux sont différents, ça va vraiment dépendre du temps de la journée, de notre état mental, des circonstances, de l'environnement. Parce qu'il est évident que si à 11h, je ne craque pas et je mange la pomme vraiment héroïquement et je résiste au chocolat, si la journée s'est mal passée, que je suis très stressée, mon système chaud va prendre le dessus, va penser à la gratification immédiate et dès que je rentre à la maison, je me jette sur le chocolat.
Maintenant, libère ta colère. Seule ta haine peut me détruire.
Ouais, c'est-à-dire qu'en situation de stress, par exemple, le système chaud va plutôt se réactiver.
Oui, et ça a été montré d'ailleurs. On a vu chez des volontaires que si, avant une tentation alimentaire, on plonge la main des volontaires dans un bac glacé qui peut être stressant pour l'organisme, et on a plus tendance à écouter son système chaud.
Tu citais tout à l'heure Walter Mischel, et donc qu'on connaît maintenant, parce qu'il a fait une célèbre étude qui est celle du test dit du marshmallow, et qui montre que les enfants qui savent se contrôler devant une tentation, donc en l'occurrence c'est celle du marshmallow, on leur pose, si j'ai bien compris, un marshmallow, et on leur dit... Si tu ne le manges pas maintenant, dans 10 minutes, je t'en apporte un deuxième. Donc, ils vont devoir se retenir pendant 10 minutes pour potentiellement gagner un deuxième marshmallow. Ceux qui parviennent à se retenir, apparemment, 30 ans plus tard, sont aussi ceux qui ont le mieux réussi dans la vie.
Oui, Walter Mischel a été vraiment le père de cette théorie du contrôle de soi. Et c'est très, très drôle de voir ces enfants qui essayent de résister. Alors, il y en a qui ne résistent pas du tout. Ils ont 5-6 ans. Hein. Ils ne résistent pas du tout. À peine l'expérimentateur a-t-il tourné dos, ils ont déjà mangé le marshmallow. D'autres, au contraire, vont, on le sent, lutter, se cacher les yeux. Bon, d'autres, il y a quand même des petits malins qui vont essayer de creuser dans le marshmallow pour manger un petit bout et que ça ne se voit pas. Chacun a une stratégie. Et c'est ça qui est très intéressant, et c'est ça qu'a remarqué Walter Mischel, c'est que chacun avait une stratégie différente. Il a suivi ensuite ses enfants de 5-6 ans tous les 10 ans jusqu'à leurs 32 ans. Et là, il a fait une sorte de bilan de leur parcours de vie et il s'est rendu compte qu'en effet, ceux qui, à 5 ans, avaient résisté à la tentation, mieux que les autres, avaient fait des études plus longues, avaient des comportements moins addictifs et avaient moins de problèmes de surpoids. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude a été validée par une autre étude en 2011, donc ce n'était pas un hasard, sur 1000 enfants néo-zélandais qui, de la même façon, ont passé ces tests et ont été suivis.
Oïna, tu voulais ajouter un mot ?
Oui, parce qu'en France, on a vu une émission, c'était sur TF1, ça s'appelait la vie secrète des enfants, et c'était assez drôle. C'est un peu ce que tu décris, c'est-à-dire qu'ils filmaient donc des enfants de 4-5 ans, donc encore plus jeunes, qui étaient soumis à cette expérience du marshmallow. Alors, c'est vrai qu'on voyait les stratégies de chacun, c'est-à-dire qu'il y en avait qui faisaient des blagues, il y en avait qui fixaient le marshmallow pendant toutes les 10 minutes, et puis il y en avait qui, voilà, dès le dos tourné, ils avalaient le marshmallow, donc c'est vraiment marrant de voir chacun, mais ces stratégies même à 4-5 ans, et ce que disait l'émission, c'est que c'est vers cet âge-là que commence à se mettre en place le système de contrôle.
Absolument, on commence à apprendre le contrôle de soi à partir de 6 ans. C'est pour ça que c'est absolument crucial d'apprendre aux enfants cette compétence. Et si on leur donne tout ce qu'ils veulent tout le temps, ils ne sont jamais à prendre le contrôle de soi. Et d'ailleurs, il y a des jeux terribles qu'il ne faut vraiment pas mettre entre les mains des enfants. Je ne sais pas si je peux citer du type Candy Crush, où on cherche la récompense tout le temps, tout le temps, tout le temps, et elle tombe, et elle tombe, et elle tombe. Ça, c'est une catastrophe pour le cerveau des petits. Parce que justement, il vaut mieux privilégier des jeux qui demandent une stratégie, des étapes pour arriver à un objectif.
Voilà, ils sont dans la gratification permanente, voilà. Ça explose à l'écran.
Ce qui n'est pas évident, hein. Moi je peux témoigner, j'ai une petite fille de 3 ans,
non.
Donc il n'y a pas encore son système de refroidissement cérébral. Et franchement, la frustration, c'est difficile. Hein.
On peut leur apprendre aussi à jouer comme au jeu 1, 2, 3 Soleil, ou le jeu des statues qui demande d'inhiber son propre corps. Et ça aussi, c'est un apprentissage vraiment fondamental pour les enfants.
Ouais, donc c'est plutôt dans la retenue ou dans le contrôle à un moment ou
dans l'inhibition de ces automatismes.
Ok, ouais, c'est vraiment intéressant. Et d'autant qu'on a parlé de la tentation et là où aussi où on n'est pas tous égaux, c'est la réponse au stress. Et je crois que tu commences d'ailleurs ton dossier sur un atelier où en gros on assiste un petit peu à 3-4 personnes qui ont chacune une réponse très très différente au stress. Pourquoi on réagit si différemment à ces situations d'angoisse ou de pression ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on peut mettre en place, nous autres humains, avec nos angoisses et nos doutes, pour ne pas faire face à nos émotions. Alors, je ne sais pas, vous faites quoi, vous, quand vous êtes stressé ? C'est quoi votre stratégie d'évitement ?
Moi, je fais partie des gens qui font des to-do list, qui remplissent un peu leur agenda pour avoir justement une sensation de contrôle un petit peu sur ce qui leur arrive. Et sinon,
moi, je suis team to-do list à fond aussi. C'est impressionnant, mon agenda, c'est n'importe quoi.
Mais aussi, on peut aussi regarder des séries à la file pour pas trop penser. On peut aussi dormir trop.
Procrastiner.
Procrastiner. On peut aussi se surcharger de travail, n'est-ce pas ?
Manger beaucoup.
On a des tas de stratégies d'évitement. Et l'atelier que j'étais allée voir à l'Institut français de pratique psychocorporelle menait justement chez des personnes comme vous et moi à comprendre ces stratégies d'évitement et essayer plutôt de faire face à ces émotions. Parce que les émotions, et c'est ce qu'on apprend dans ce genre d'atelier, les émotions sont tout à fait utiles. Lorsqu'on a peur, par exemple, c'est que notre cerveau nous alarme d'un danger potentiel. C'est très important d'accepter cette peur, de comprendre le danger et d'y répondre. Lorsqu'on est triste, c'est qu'on fait face à une frustration. Il est important d'accepter cette tristesse et après d'essayer de faire quelque chose pour s'en sortir. Mais ce qui est important, c'est que nos stratégies d'évitement, elles sont spontanées et en même temps, elles sont nocives parce qu'elles nous empêchent de vraiment faire face à nos émotions. Or, les émotions, ce sont des alarmes importantes à écouter, mais l'important aussi, c'est de ne pas laisser se submerger par elle.
Ouais. C'est le difficile équilibre entre... Il ne faut pas nier, mais il ne faut pas se laisser emporter. Quoi.
Comment vont tes parents ?
Oh, ils s'entraînent pour le concours de stress.
De quoi ? Ça n'existait pas à ton époque.
Et moi, il me semblait que tu avais... Enfin, de ce qu'on comprenait aussi de ces émotions, Yana, c'était qu'elles étaient contagieuses et qu'on pouvait peut-être même les travailler.
Ouais. Alors, j'avais vu une étude, donc c'était aux États-Unis, c'était sur l'histoire de la consommation d'électricité. Donc, il y avait une expérience qui avait été menée et donc des foyers recevaient leur consommation d'électricité et celle de leurs voisins. Donc, ceux qui consommaient beaucoup, plus que la moyenne, avaient réduit la voilure et ceux, à l'inverse, qui consommaient moins, avaient augmenté. Donc c'est assez intéressant. Deuxième temps de cette expérience qui est encore plus drôle, les ménages qui consommaient peu mais qui recevaient un smiley genre « c'est super, continue comme ça », et ben ils augmentaient pas leur consommation. Donc ça veut dire qu'on peut quand même encourager des bons réflexes et qu'on peut modifier un petit peu
la gratification, la récompense quand même, ouais. Ou la comparaison. Ouais. Il faut qu'il y ait une notion d'objectif et de résultat à la fin. Et
je pensais aussi qu'on réagit tous différemment parce qu'on est tous différents. On a tous un profil émotionnel différent. Et c'est ce que l'on dit dans le dossier. C'est-à-dire que cette notion de profil émotionnel, elle a été établie par Richard Davidson, qui est donc professeur de psychiatrie et psychologie à l'Université Wisconsin-Madison et qui est très connu pour avoir travaillé avec le Dalai Lama et les moines tibétains sur la méditation. C'est le premier à avoir fait les enregistrements en électroencéphalogramme des moines tibétains en méditation. Et Richard Davidson a travaillé depuis 30 ans sur les émotions et le cerveau. Et à force d'étudier des gens dans des IRM, il s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout tous le même profil émotionnel. Et il en a dégagé 6 composantes. Donc c'est chacun, on a ces 6 composantes avec des curseurs. On met le curseur différemment sur ces composantes. Donc, on peut dire que là, autour de la table, on a des profils émotionnels tout à fait différents. Donc, forcément, on réagit différemment à ce qui nous arrive, aux événements de la vie.
Sans aller très loin dans l'explication de ce que sont ces profils émotionnels, est-ce que tu peux peut-être nous les décrire ou en tout cas nous dire un peu à quoi ça correspond au global?
Oui, il a dégagé, ce qui est intéressant, il a dégagé des composantes du profil émotionnel qui correspondent tous à des réseaux cérébraux distincts. Donc c'est intéressant, parce qu'on le voit en imagerie cérébrale. Alors, comme composante, on a la résilience, c'est-à-dire la capacité à récupérer après un événement. Mais ça peut être un événement mineur. Hein. Bon, c'est cette capacité à rebondir.
Une dispute, ça peut être plein de choses.
Voilà, un petit accrochage le matin en voiture. Certains vont rester toute la journée à grommeler, alors que d'autres vont passer tout de suite à autre chose. On est tous différents par rapport à ça. Ensuite, on a cette capacité d'attention, se concentrer sur les choses. Ça aussi, on est très, 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 très inégaux par rapport à notre capacité d'attention. Et c'est très important parce que si on veut être en relation avec les autres émotionnellement, il faut faire attention à ce que l'autre nous raconte. On a aussi la conscience de soi, c'est-à-dire notre état corporel et notre état mental, comment nous, on se perçoit. C'est aussi quelque chose de très personnel et très unique. La quatrième compétence, c'est la sensibilité au contexte. Alors ça, c'est marrant. C'est-à-dire que c'est pas... vous savez, ceux qui mettent les pieds dans le plat, vous voyez ? Bon, ben, c'est pas aller raconter une mauvaise blague à un enterrement, ouais. Par exemple. Hein, typiquement, voilà. On comprend.
C'est du bon sens, un petit peu.
Ben, c'est du bon sens et en même temps, on en connaît tous, hein, des gens qui font des faux pas. Voilà, on a aussi l'intuition sociale. Alors là, c'est la capacité à percevoir les signaux non-verbaux. Quand on parle à quelqu'un, on arrive à percevoir dans quel état émotionnel il est. Ce n'est pas partagé par tout le monde. Et enfin, la perspective. Alors, est-ce que vous connaissez ? Moi, j'en connais des gens qui voient toujours tout en rose. Même malgré les coups du sort, ils arrivent toujours à positiver. Et d'autres, au contraire, ils voient toujours le verre à moitié vide.
Ouais, les grincheux, on les connaît. Ouais.
Voilà. Eh bien, ces 6 composantes se traduisent par une activité de réseau de neurones particulier.
Bon, 6e science, on procrastine, mais on prépare un petit peu les choses aussi. Justement, tout le monde autour de la table a fait une partie du test de Richard Davidson, et notamment celui sur la résilience, donc la capacité à se remettre, ou en tout cas à passer à autre chose après. Ça peut être une dispute, un accident, ça peut être une frustration, enfin, c'est pas mal de choses. Et de ce que j'ai cru comprendre, moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez résilient, donc si jamais l'émission foire, bah, je pourrais m'en remettre même si je m'en voudrais. Et à contrario, je crois que Elena et Oyana sont plutôt dans la moyenne haute, c'est ça hein.
Bah alors, en fait, le test, donc, on a un résultat qui va de 1 à 10, hein, c'est ça. Donc plus on est proche de 10, moins on est résilient. Plus on est proche de 0, plus on est résilient. Donc moi j'ai 6, donc je suis quand même dans la moyenne.
Moi j'ai 5.
Mais voilà. Donc, mais c'était pas une surprise. Hein. Moi j'ai un peu de mal à me remettre quand il se passe un truc au boulot qui me plaît pas. Je vais un peu ruminer. Après, ça dépend un peu de quel domaine. Quoi. C'est vrai qu'on parlait, voilà, le truc en voiture, moi, je vais moins m'énerver, c'est vrai. Le truc pratique, ça, je vais moins m'énerver. Par contre, les trucs humains, moi, ça m'impacte beaucoup.
Mon neveu Izzy, c'est comme ça qu'il a cassé sa pipe, en buvant un coup. Le stress, c'est vraiment mortel. Et il était végétarien, jamais de viande. Il suçait même pas le sang.
Alors, je donne une petite illustration hein, du type de question que vous pouvez retrouver en ligne. On postera justement le lien dans la description de l'épisode pour faire le test sur les 6 composantes du profil émotionnel avec les résultats, etc. Tout est gratuit, tout est en ligne. Donc, par exemple, parmi les questions qui sont posées, c'est si un autre automobiliste roule sur le talus pour doubler tous les autres dans la file d'attente, je hausse les épaules au lieu de m'énerver durablement. Et donc là, vous répondez vrai, faux. Et à chaque fois, chaque question donne des points dans un sens ou dans l'autre. Et plus vous avez de points et potentiellement moins vous êtes résilient, etc. Et on a d'autres questions, c'est notamment moi, c'est une question sur laquelle je ne suis pas très résilient, c'est si mon chauffe-eau tombe en panne, cela n'a pas grand effet sur mon humeur, car je sais qu'il suffit d'appeler un plombier pour la faire réparer. Bah, typiquement, moi, c'est quelque chose qui va m'énerver et je vais essayer d'économiser énormément sur le plombier, essayer de trouver un bon plombier et ça va m'occuper toute la journée.
Alors que moi, pas du tout.
Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que scientifiquement, ça s'explique. Cérébralement, ça s'explique. C'est-à-dire que dans notre cerveau, on a une petite structure qui s'appelle l'amygdale, qui n'a rien à voir avec nos amygdales au fond de la gorge. Hein. C'est l'amygdale cérébrale, on en a deux d'ailleurs. Et cette petite structure, elle est très primitive et elle s'active dès qu'il y a un danger potentiel. Elle est complètement impliquée dans l'anxiété, la peur, etc. Lorsqu'il nous arrive ce genre de choses, un accrochage sur la route par exemple, l'amygdale, elle est tout de suite très très activée, attention, danger. Et là, que se passe-t-il ? Le danger passe, et à ce moment-là, le cortex préfrontal, qui est le grand PDG du cerveau et qui lui réfléchit, il va se calmer l'amygdale. Lui dire « c'est bon, tout va bien, il n'y a pas de blessé, tu continues ». Et la connexion qu'on a entre cette amygdale et le cortex préfrontal va nous rendre plus ou moins résilients. Et plus on a une connexion efficace entre ces deux structures, plus on est résilient.
Mais en gros, c'est vrai que ce quiz-là, moi, quand je l'ai fait, je me suis dit, bon, bah, effectivement, ça fait un peu quiz de personnalité classique avec des profils A, B, C, D à la fin. Mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi, une fois qu'on a les résultats sur ces quiz ?
Alors, Richard Davidson me disait que c'est très, très, très important de se connaître et de connaître son profil émotionnel. Parce que tout son travail montre aussi que ce profil est modifiable. Évidemment, on est comme ça. Mais on peut, grâce à la plasticité synaptique, le fait d'entraîner son cerveau modifie les connexions cérébrales. Donc si on s'exerce, on peut arriver à modifier certaines composantes qui nous embarrassent. C'est vrai que d'être peu résilient peut vraiment empoisonner la vie. Si on rumine toujours sur ce qui vient de nous arriver au lieu de penser à l'instant présent, etc., ça peut être vraiment très, très pénible. C'est un exemple. Le fait de ne pas être concentré sur ce qu'on fait et d'avoir toujours l'esprit qui chasse les papillons qui nous passent devant le nez, ça peut être très problématique dans notre société. Donc, Richard Davidson dit bien que grâce à la plasticité, on peut travailler ses compétences.
Oh, mes endives ! On lui a mis un rocher sur la tête. Ça l'a calmé, le bouseux.
Et Oyana, toi, t'as même interviewé, je crois, un coach hein, sur les émotions pour améliorer son quotidien.
Oui, en fait, on peut même calculer le quotient émotionnel comme on calcule le QI, en fait. Et le but, c'est de s'améliorer, comme tu disais, Elena. Donc, j'avais interviewé pour un article Evelyne Bouillon, donc, qui était coach et qui avait écrit « Quotient émotionnel, comment se servir de ses émotions comme d'une ressource ?» C'est exactement ce que tu disais. Donc, elle disait « Pour s'améliorer, d'abord, il faut accueillir les émotions. » Enfin, voilà, donc les connaître le vocabulaire des émotions, les dire, reconnaître. Qu'on est en colère, ému, etc. Ensuite, il faut trouver le sens. C'est un peu toute la psy, enfin voilà, sans dévoiler. Elle prenait un exemple que je trouvais assez rigolo, c'est pourquoi ça m'énerve à chaque fois que quelqu'un ne met pas son assiette dans le lave-vaisselle comme moi je veux le mettre. Je suis pas aussi psychorigine, mais un petit peu quand même. Et en fait, ça fait appel à un souvenir d'enfance. Enfin voilà, il faut trouver dans son histoire personnelle pourquoi est-ce que ce truc-là, à chaque fois, ça m'énerve. Donc ça, c'est le deuxième temps. Le troisième temps, c'est communiquer, c'est-à-dire bah, dire à son mari, en fait, quand tu fais ça, ça m'énerve. Ou dire à son entourage, à sa famille, une fois qu'on a compris les mécanismes, comment les voilà, les stopper, quoi.
Et du coup, moi, j'ai une question qui est assez simple. C'est, en gros, quels sont les conseils pratiques, je sais que tu en listes quelques-uns, je crois, Elena, dans le dossier, pour se contrôler, ou en tout cas pour peut-être des fois calmer un petit peu le jeu du côté de son amygdale ou de son centre chaud.
Alors, c'est vrai que d'accepter ses émotions et les décrypter, c'est un exercice qui n'est pas du tout évident, mais qui est ô combien salutaire. Et je prendrai l'exemple de la colère. Lorsqu'on est en colère, on peut juste s'énerver et être en colère. On peut aussi analyser le type de colère qu'on a et se dire que dans toute émotion, il y a forcément un aspect positif aussi. La colère, une juste indignation, vous mène à l'action. Donc, essayez de développer les côtés positifs de son émotion négative, je ne sais pas si vous me suivez, pour en faire quelque chose. Ça, c'est un des principes de l'intelligence émotionnelle. Ensuite, il y a plein de trucs pour avoir une meilleure maîtrise de soi. Et je dirais que lorsqu'on a des objectifs à long terme, le problème de l'objectif à long terme, c'est que c'est tout froid. C'est loin. Mmh. Si j'ai envie de devenir championne de tennis, c'est dans longtemps. Mais n'empêche qu'il va falloir que j'aille à mon cours aujourd'hui, alors que je préférerais regarder une série. On en revient au même.
Toujours.
Donc, comment faire ? Eh bien, il faut que je fasse un effort mental pour m'imaginer déjà, brandissant la coupe, etc. Il faut que je réchauffe le présent, en fait. Il faut que je réchauffe le... Non, plutôt, il faut que je réchauffe le futur.
Mmh. Ouais, c'est de l'auto-persuasion, limite. Hein.
C'est un vrai travail mental pour essayer de rendre le court terme attrayant.
Mmh. Ou une projection, en fait. Tu peux te dire... en fait, j'avais fait en sophrologie... à la maternité, un truc où il nous disait « Imaginez-vous en train d'accoucher ». Et c'était assez impressionnant. En fait, on y pense. Voilà. Du coup, c'est ça, un peu réchauffer le futur. C'est bon, on s'imagine comment ça va être. Ça va sans doute pas être comme ça. Mais en fait, ça permet de se mettre dans une émotion qu'on va vivre, quoi.
Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux.
Et parmi les techniques, moi, que j'avais listées, qui figuraient pas dans le dossier et dont j'avais entendu parler un peu plus tôt, c'était celle des petits pas. C'est-à-dire que fixer des petits objectifs et donc avec des gratifications régulières. Mm-hmm. Donc, je crois que c'est très utilisé, notamment pour les personnes qui veulent arrêter de fumer. Et par exemple, si jamais on veut écrire un livre, c'est se dire tous les jours ou toutes les semaines, je me donne un objectif de 20 pages maximum, plutôt que de me dire j'ai 6 mois pour écrire mon bouquin. En fait, c'est toutes les semaines, j'écris.
Découper l'objectif en micro-missions. Mmh. Mmh. Tout à fait. Il y a aussi une autre technique qui est pas mal, c'est se dire pense à l'image d'après. Et ça, c'est très bien pour les enfants. C'est un vrai truc pour les enfants que je pratique aussi à la maison avec les miens. Voyez, les enfants typiquement qui posent le verre d'eau tout au bord de la table. Là, vous leur dites juste « pense à l'image suivante ». Et ils le disent « il va tomber ». Bon, donc qu'est-ce que tu fais ? Tu le déplaces. Alors, ça vaut pour les enfants. Ça les oblige à toujours penser à ce qui va se passer à la conséquence de leurs actes. Mais nous aussi, on peut se dire la même chose. Par exemple, quand j'arrive pas à écrire devant la page blanche, je me dis, pense à l'image suivante. C'est quoi mon objectif ? J'imagine mon article écrit. Tout de suite, j'ai un objectif. Je peux imaginer la première phrase. Mmh. C'est une façon aussi de se motiver pour enclencher l'action.
Et par rapport au stress ?
Le stress, j'ai envie de dire, toutes les méthodes de gestion du stress sont bonnes pour la maîtrise de soi. Alors, évidemment, ayant parlé à Richard Davidson, qui est un adepte de la méditation, j'ai envie de dire que plus que la méditation, apprendre à respirer, on sait tous respirer, et on a une respiration tout à fait automatique. Mais le fait de respirer, rien que de prendre une grande inspiration, allez-y, le fait de prendre une grande inspiration, ça a un effet sur le nerf vague qui ralentit le cœur. C'est aussi simple que ça. Alors, toutes les méthodes de
sophrologie, relaxation, yoga, méditation, tout ça, c'est la respiration.
Donc, c'est vraiment, je dirais, la méthode anti-stress, c'est la respiration.
C'était le mot de la fin.
J'ai yoga.
Oui, donc on a parlé de pas mal d'états émotionnels, en joie, triste ou en colère. Je ne sais pas dans quel état justement vous avez fini ce podcast. Dans un cas comme dans l'autre, bien que j'ai mes préférences, effectivement je préfère que vous ayez pris un peu de plaisir. Si comme nous, si vous avez eu des bons scores au test de résilience, vous devriez vous en remettre assez vite. L'émission vous a mis en appétit.
pour remplir votre estomac cérébral, il y a bien sûr le numéro du mois de Science et Avenir. Pendant que vous filez chez votre libraire, vous aurez même le temps de remplir un des tests de Richard Davidson. C'est bien ça, Richard Davidson, hein, parce que je dis toujours David Richardson, pour connaître votre profil émotionnel. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va mettre le lien en copie, dans la description du podcast, comme ça vous pourrez le faire. Et normalement, vous devriez même pouvoir travailler sur votre profil émotionnel et vous améliorer au quotidien. Ce qui nous ferait plaisir à nous, hein, c'est que vous fassiez un tour sur la page iTunes de 6ème Science pour la bombarder d'émotions positives sous la forme d'étoiles ou de commentaires. Lâchez un peu votre maîtrise de vous et faites-nous plaisir. Pour entamer la discussion dans un cadre un petit peu plus formel, l'adresse est toujours la même, audio@20minutes.fr. À dans un mois, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
6ème Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.